Michaela Wiegel, vous êtes journaliste correspondante politique à Paris pour la Frankfurter Allgemeine, quotidien de référence en Allemagne. Vous êtes autrice de plusieurs enquêtes remarquées sur plusieurs présidents de la République française et spécialiste de la relation franco-allemande. On commencera l'entretien par une question de Léandre.
Bonjour, bonjour à tous. Merci, Madame Wiegel, pour votre présence. J'ai une petite question. J'ai remarqué que lorsque je demandais à mes proches, surtout aux membres de ma famille, ce qui, selon eux, illustrait les relations franco-allemandes, ils avaient tous des réponses différentes, légèrement différentes selon leur expérience, en tout cas. Mes grands-parents, par exemple, répondaient la Deuxième Guerre mondiale. Mes parents répondent la guerre froide. Mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous, personnellement, vous avez une anecdote ou une expérience qui illustrerait ces relations franco-allemandes? Et en complément, deuxième petite question, est-ce que, selon vous, l'Europe a-t-elle un avenir dans ses constructions? Et si oui, forcément oui, est-ce que c'est bien au couple franco-allemand d'en impulser ce nouvel élan?
Alors, Michaela, vous êtes une observatrice avertie de la politique française. Pour vous, le franco-allemand est-il une réalité ou parfois plutôt un affichage côté français?
Oui, alors bonjour et tout d'abord, merci beaucoup pour cette formidable initiative. Alors, beaucoup de questions. J'ai trouvé très pertinente la question de Léandre Lepers. Et effectivement, il a dit que deux générations, c'était en quelque sorte l'Europe, c'était pour protéger contre la guerre froide. Et quand j'y réfléchis aujourd'hui, je trouve qu'on est, je suis vraiment la première génération, on a l'Europe pour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'Europe pour, c'est justement, on peut l'utiliser pour créer notre avenir. Alors, ça paraît très abstrait, mais c'est des choses très concrètes. C'est-à-dire voyager, étudier, travailler dans un autre pays. Tout ça, on a un peu l'impression, comme l'euro qu'on a dans notre portefeuille, que ça va de soi. Mais je crois que ça ne va pas du tout de soi. Et Alex Taylor probablement peut en parler un peu avec le Brexit. Et donc, je crois réellement que c'est ça, l'avenir de l'Europe. J'ai une autre question, mais je faisais cette petite pause. J'ai une autre question à répondre, c'est est-ce que c'est juste un affichage de franco-allemand? Effectivement, on peut se dire que c'est devenu une routine, il y a beaucoup de relations institutionnalisées, mais le cœur parfois n'y est pas. Mais je crois quand même, malgré tout, cette origine qui vient du fond de notre histoire, de cette opposition et souvent cette rivalité franco-allemande, elle reste vivace. Et donc, je crois qu'il est très, très important d'y travailler tous les jours et de surmonter nos tendances naturelles.
Vous avez parlé du Brexit, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'Europe et pour le couple franco-allemand ou est-ce que c'est une mauvaise chose pour l'Europe?
Alors, je suis aussi plutôt une optimiste. Alors, je suis très triste que nous n'avons plus la Grande-Bretagne avec nous. Je le regrette beaucoup, surtout par rapport à ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire que l'Europe est vraiment un projet d'avenir pour les jeunes générations qui peuvent faire des parcours très différents et ça va être de plus en plus difficile. Mais nous voyons aussi que justement ces nationalismes petits, avec des enjeux souvent ridicules. Et ces nationalismes sont de retour, on l'a vu tout récemment avec cette dispute sur les droits de pêche autour de Jersey, même si je ne veux pas exagérer ce conflit, mais on voit dans les réactions que malgré tout, ça peut revenir très vite.
Alors, parmi les questions qui sont souvent revenues parmi les jeunes, Michaela, il y a la place de l'Europe face au reste du monde et sa capacité à défendre son rôle et surtout ses valeurs dont on parle souvent face à des puissances comme la Chine, les États-Unis, la Russie ou aussi la Turquie qui concerne beaucoup aussi l'Allemagne pour conserver et consolider son unité. Alors, comment est-ce que vous interprétez les turpitudes européennes face à des stratégies établies et menées avec conviction par la Chine, par les États-Unis et par la Russie?
Oui, je dirais là, on est vraiment au cœur aussi de la question pourquoi la France et l'Allemagne doivent travailler ensemble. Parce que justement, nous avons en Europe, dans tous les pays européens, des traditions très différentes vis-à-vis du monde extérieur et vis-à-vis la gestion des crises. Vous avez des nations comme l'Allemagne qui a renoncé quasiment à jamais à utiliser la force militaire comme moyen de pression. Et on a des pays comme la France, dont la tradition d'avoir aussi le facteur militaire, d'avoir un siège permanent au sein du Conseil de sécurité, crée une réaction totalement différente. Et je pense réellement, nous sommes dans une étape un peu douloureuse, un peu entre deux, de créer, d'élaborer une politique extérieure pour l'Europe. Ça marche pas encore très très bien, mais je crois que c'est vraiment une nécessité parce qu'on est entouré de plus en plus des puissances comme la Turquie, la Russie et aussi la Chine, qu'on appelle désormais un rival systémique, des puissances qui ne nous veulent pas forcément du bien.
Est-ce qu'on a été un peu nul en tant qu'Européens sur la question des vaccins?
Alors, je crois là aussi, on est dans un sujet un peu où c'est une nouvelle expérience. Comme souvent, une nouvelle expérience, on ne fait pas tout bien. Je crois que la bonne volonté était là au début. Mais effectivement, comme le domaine de la santé, c'est un des rares domaines où on avait laissé vraiment les nations normalement tout gérer, on n'avait pas encore les compétences et capacités. Du coup, la logistique, on n'a pas fait ce que les États-Unis ont fait, c'est-à-dire passer en quelque sorte à une économie de guerre pour avoir toute la logistique. Parce que nous, on ne savait pas. Mais je pense quand même, on n'est pas encore à la fin et je crois que le regard va être plus bienveillant bientôt de beaucoup d'Européens parce que on va réaliser quand une bonne partie de la population va être vaccinée que malgré tout, on fait partie de ces pays heureux où le vaccin est accessible pour tout le monde et non pas selon son revenu, ses revenus et ses richesses.
Alors, parmi les questions qui nous ont été transmises, beaucoup d'interrogations sur la priorité pour l'Europe et pour le couple franco-allemand. Est-ce que cela doit être l'environnement pour certains, le modèle social ou fiscal pour d'autres, la prise de décision au sein de l'Europe, l'avenir économique? Pour vous, quel est le domaine le plus urgent et le plus stratégique dans lequel il est nécessaire de faire évoluer ce concept d'Europe?
Alors moi, j'ai un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur et je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est cette initiative des universités européennes lancée par le président Macron lors de son discours de la Sorbonne, qui a pas mal marché. Il y a maintenant 41 universités européennes, mais je me dis, ça peut marcher à long terme uniquement si on en parle beaucoup plus. Et surtout, si on met beaucoup plus d'efforts sur l'apprentissage des langues. Et je le vois dans le petit monde franco-allemand, et je ne le dis pas pour vexer l'anglophone Alex Taylor, mais je me dis, il faut vraiment, bien sûr, tout le monde doit apprendre l'anglais, mais il faut vraiment qu'on apprenne les langues des autres pays européens. Je trouve le rêve que chacun parle au moins une autre langue à côté de l'anglais d'un pays partenaire. On doit en parler et on doit faire des efforts beaucoup plus importants. Ça, ce serait mon rêve pour l'Europe.
Je vous rassure, Michael, je me bats pour le multilinguisme, moi anglophone, mais je me bats pour que chacun parle
Je sais,
sa langue
il faut vous taquiner.
im Herzen Europas. Vous avez suivi vous-même les différents présidents de la République française et leurs ambitions européennes. Vous connaissez les énormes différences institutionnelles qui régissent les pouvoirs entre un président et un chancelier ou une chancelière. Comment est-ce que vous analysez-vous, ce serait intéressant de savoir, le rôle du président de la France dans le cadre de la dynamique européenne et franco-allemande?
Alors, le président Macron, il a commencé avec énormément de projets et beaucoup d'élan. Et je crois que, effectivement, la réaction allemande n'était pas toujours telle qu'il avait espéré. Je crois que, malgré tout, le constat aujourd'hui, il est très positif parce que beaucoup de projets ont été lancés. Mais, en revanche, je crois qu'on est du côté allemand, mais aussi dans beaucoup d'autres pays européens, plus habitués à ce rôle d'un président français qui s'occupe de l'Europe comme d'un jardin à la française. Et on a un petit peu le sentiment qu'il est trop actif, qu'il coupe trop vite les haies, que nous, on voulait probablement laisser pousser et que il va trop vite aussi pour retourner une friche pour dire là, il faut qu'on mette cela, ceci. Et donc, c'est probablement l'autre côté de ce renouveau européen en France de la part d'un président très actif, c'est que il faut laisser un peu du temps aux autres à venir avec lui.
Beaucoup de questions aussi sur la façon d'avancer dans le couple franco-allemand pour mieux donner cette impulsion à l'Europe. Est-ce que la voie suivie par le traité d'Aix-la-Chapelle, par exemple, est-ce qu'elle est suffisante? Qu'est-ce que vous attendez de la future présidence française de l'Union européenne dans ce domaine? Et selon vous, cette concordance est-elle favorable à des réalisations concrètes? Ou faut-il s'attendre à une volonté affichée complexe à mettre en œuvre en raison de la prédominance du débat national et de la prudence des dirigeants européens face à l'élection présidentielle française? Je cite, mais c'est une question qui a été envoyée.
Oui, c'est une très très bonne question. Alors, je pense c'est comme un peu le traité de l'Élysée, le traité d'Aix-la-Chapelle. Quand on le lit sur toutes les questions, il est excellent. Mais le problème c'est qu'il n'est pas encore appliqué complètement. Donc, il faudrait vraiment faire entrer dans les actes ce traité. Je crois malgré tout, une des institutions et vous en avez certainement parlé aussi, c'est qui est très prometteur, c'est cette nouvelle assemblée parlementaire franco-allemande qui est aussi un peu un bébé du traité d'Aix-la-Chapelle. Et je crois notamment lors des négociations sur les probables, les possibles fermetures de frontières, cette assemblée a vraiment montré qu'il était nécessaire d'avoir des parlementaires qui sont dans les circonscriptions et qui connaissent la réalité du terrain pour adoucir en tous les cas les réglementations. Et je pense que effectivement, on aura besoin de plus en plus des moyens à proximité proche des citoyens pour faire avancer cette coopération.
Je ne vous apprends rien. Vous savez très bien qu'Annalena Baerbock est en haut des sondages pour le poste de future chancelière d'ici quelques mois. Est-ce que cela peut beaucoup changer la donne pour vous dans le cadre de ce couple franco-allemand?
Alors, bien sûr, ça voudrait dire un rajeunissement. Le président Macron aurait d'un coup l'air presque vieux. En tous les cas, ça voudrait dire un changement de politique qui, non seulement en termes de contenu, mais qui est aussi générationnel. Alors, Annalena Baerbock, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a pour l'instant, la France est un peu une feuille blanche pour elle. Elle a été à Londres, enfin, elle était en Angleterre, tout son parcours et en Allemagne du Nord et après pour sa circonscription à l'Est, est moins orientée, on va dire, vers la France. que par exemple le Robata, avec qui c'est toujours beaucoup intéressé. Mais je crois qu'effectivement, ça pourrait donner un nouvel élan parce qu'elle mettra certainement en avant des aspects qui n'étaient pas importants pour la chancelière Merkel. Et en même temps, elle découvrira un petit peu la France. Et ça fait du bien aussi quand on ne connaît pas déjà un, deux, trois, je crois que c'est son cinquième président, ah oui, Chirac, Sarkozy, Hollande, Angela Merkel, elle en a quand même connu des présidents.
Et dernière question, l'Europe a beaucoup profité de ce moteur franco-allemand. Est-ce qu'on peut aussi dire que parfois c'est peut-être un handicap que l'Europe ait ce duo en tête et que parfois ça écarte les autres qui disent ah, ben c'est toujours la France et l'Allemagne qui décident pour nous de toute façon. Enfin, je pose une question un peu provocatrice, mais est-ce qu'il y a un argument pour dire ça?
Oui, alors je crois que le débat il existait déjà à l'époque quand l'Europe était une toute petite communauté quasiment familiale. Effectivement, il y a toujours le problème d'une suprématie ou d'un duopole. Moi, je crois réellement qu'il n'y a personne plus malheureux que les autres Européens quand la France et l'Allemagne ne s'entendent pas du tout et que ça avance pas. Donc je crois que c'est un tout petit peu un faux débat. Effectivement, je trouve, et cela est vrai aussi bien pour l'Allemagne que pour la France, ils doivent faire très attention de ne pas faire preuve d'arrogance, de ne pas faire passer leur propre dessein avant ceux des autres et de les associer. Mais je crois comme nos deux cultures et nos réflexes naturels sont tellement éloignés, une fois que la France et l'Allemagne trouvent un compromis, je crois qu'on peut associer vraiment un large spectre d'autres pays européens.
Michaela Wiegel, vielen Dank für Ihre Anwesenheit.
Vielen Dank.
Michaela Wiegel, j'ai une question complémentaire, excusez-moi, à votre réponse précédente. François Hollande, ce matin, lorsqu'on l'interrogeait en table ronde, s'est prononcé vraiment en faveur d'une décision à 27, parce que le consensus est la règle au sein du Conseil européen. Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'Allemagne serait en possibilité, en volonté, d'être sur ce chemin d'une Europe à plusieurs vitesses?
Alors, je ne sais pas si Annalena Baerbock et les Verts se sont déjà prononcés sur cette question, mais ce que je peux dire, c'est que traditionnellement, et c'est notamment vrai pour Angela Merkel, cette Europe à plusieurs vitesses, prononcée comme telle, a toujours été évitée parce qu'on ne voulait pas donner le sentiment qu'on excluait d'office des pays membres. Mais de fait, cette Europe à plusieurs vitesses, comme vous l'appelez, existe déjà. Pour ça, je trouve que c'est un peu un faux débat. Quand on regarde la zone euro, quand on regarde la zone Schengen de libre circulation, on a déjà des Europes à plusieurs vitesses. On a déjà des Européens qui participent aux efforts de la défense davantage que d'autres. Donc, on a déjà des cercles qui ne se couvre pas à chaque fois, mais de dire on en est marre en quelque sorte de ceux qui sont trop longs ou qui sont trop indécis, et c'est pour ça on va maintenant dire nous on est le groupe avant. De vraiment faire avancer l'Europe.